écoutez RFI, les 6h à Paris, 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et on est avec Gaëtan Plenet pour le journal. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Il y a ceux, Gaëtan, qui adhèrent, ceux qui refusent, et puis ceux qui viennent, mais juste pour voir.
La petite cartographie dès le début de ce journal, alors que le Conseil de la paix de Donald Trump organise sa première réunion aujourd'hui. Dans l'actualité également, l'Iran et la Russie qui lancent des manœuvres navales communes en mer d'Oman et dans l'océan Indien. On sera en Syrie, auprès des habitants de Souaïda, 6 mois après les affrontements meurtriers dans cette ville du sud du pays, encore contrôlée par les Druzes. Total Energy à la barre en France, ce jeudi, premier grand procès climatique contre un géant pétrolier dans le pays. Et puis on vous présentera aussi la comorienne Malha, l'une des finalistes du prix Découverte RFI 2026.
Le rendez-vous est donné à Washington à 14h temps universel à l'Institut des États-Unis pour la paix.
Ou plutôt l'Institut Donald Trump pour la paix, puisque c'est sous nouveau nom depuis quelques semaines. Alors le lieu était tout trouvé pour la réunion inaugurale de l'instance créée justement par le président américain, le Board of Peace, le Conseil de la paix, une sorte de concurrent aux Nations Unies. Son rôle, aider à la reconstruction de la bande de Gaza, et ce sera d'ailleurs le thème a priori de cette première réunion, mais plus largement, œuvrer à la résolution de conflits dans le monde. On fait les présentations avec François-Damien Bourgerie.
Près de 60 pays avaient été conviés par Donald Trump à rejoindre son Conseil de la paix. Ils ne sont finalement que 27 à avoir répondu à l'invitation. Parmi eux, l'Indonésie, la Turquie, la Biélorussie, l'Arabie Saoudite ou encore le Kazakhstan. Seulement 3 pays latino-américains, 2 africains, le Maroc et l'Égypte, et 2 membres de l'Union européenne, la Hongrie et la Bulgarie. Cela représente 1,5 milliard d'habitants, soit 18% de la population mondiale, ce qui fait de ce Conseil de la paix une instance bien moins représentative que le G20 ou les BRICS, par exemple. L'organisation se distingue en revanche par la forte concentration des gouvernements autoritaires qui la composent. Ils sont 20, la moitié d'entre eux sont même considérés comme des autocraties fermées, c'est-à-dire des pays où les libertés sont limitées et les élections, lorsqu'il y en a, verrouillées. Alors cette première réunion du Conseil de la paix incitera-t-elle d'autres pays à le rejoindre? Pour rappel, le ticket d'entrée a été fixé à 1 milliard de dollars.
Et j'ajoute qu'au moins 5 pays seront présents tout à l'heure à Washington lors de cette session, mais seulement en tant qu'observateurs et non pas membres. Ce sera le cas notamment de l'Italie et de la Grèce. La Commission européenne, elle aussi, vient voir sans adhérer.
Parmi les absents, l'Iran.
Mais ce n'est pas franchement surprenant. Difficile d'imaginer que Téhéran ait pu recevoir une invitation américaine alors que les tensions sont fortes entre les deux pays, et ce malgré la nouvelle salve de pourparlers qui s'est tenu mardi à Genève. Selon les chaînes de télévision américaines CBS et CNN, l'armée américaine serait même prête à frapper la République islamique dès ce week-end si l'ordre lui était donné. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais Washington accentue la pression quand même avec notamment ses porte-avions américains déployés dans le Golfe depuis quelques semaines. L'Iran serait bien avisé de conclure un accord, met en garde la porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Levitt, alors que les États-Unis disent vouloir empêcher coûte que coûte Téhéran de se doter de l'armes nucléaires. Face aux menaces, l'Iran affiche ses soutiens si à Boshgazi avec des manœuvres navales à partir d'aujourd'hui.
Ces manœuvres navales communes avec la Russie vont se dérouler en mer d'Oman et dans l'océan Indien, à l'endroit même où les forces navales américaines, notamment le porte-avions Abraham Lincoln, ont été stationnées pour une éventuelle attaque contre l'Iran. Elles interviennent alors que les gardiens de la Révolution ont mené des exercices dans le détroit d'Ormuz depuis lundi, une voie maritime par où transite 20% du pétrole mondial. Le chef des forces navales des gardiens a même affirmé que le détroit a été fermé au trafic pendant plusieurs heures pour mener ses manœuvres. Un autre responsable militaire a déclaré que l'Iran avait la capacité de fermer le détroit en cas de guerre. Enfin, les médias iraniens ont annoncé des manœuvres communes avec la Chine et la Russie prochainement sans indiquer une date exacte. Ces nouveaux événements interviennent alors que l'Iran et les États-Unis ont achevé le second round des négociations à Genève. Les deux parties ont qualifié de positives ces négociations et ont prévu de se retrouver pour poursuivre les discussions. Mais aucune date n'a été fixée pour l'instant.
C'est une information du Wall Street Journal. Les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes déployées en Syrie. Ça devrait se faire pendant les 2 prochains mois, alors que Donald Trump milite pour un désengagement militaire de son pays dans plusieurs zones de conflits internationaux.
La Syrie, où l'on part tout de suite, direction la ville de Souaïda.
Dans la province du même nom, dans le sud du pays, la seule qui ne soit pas encore tombée aux mains des forces de Damas. Souaïda est toujours contrôlée par les milices druzes. Il y a 6 mois, la région avait été le théâtre de violents affrontements entre factions druzes, clans bédouins bédouins et forces gouvernementales. C'est encore dans toutes les têtes là-bas, il y avait eu des milliers de morts. Alors les habitants craignent que l'histoire ne se répète dans une ville de plus en plus isolée et soumise à des pénuries fréquentes. Reportage à Souaïda de notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin.
6 mois après, Osama décrit avec la même émotion le déroulé exact des faits. Le massacre de la famille Radouane, la sienne, a glacé ici l'ensemble des habitants. 12 morts tués par des hommes qu'il dit affiliés aux forces du gouvernement.
Ils ont ouvert le feu, ça a duré moins d'une trentaine de secondes. Immédiatement, une balle m'a traversé l'épaule. Je me suis jeté au sol et j'ai fait le mort.
Lui, ancien révolutionnaire, ancien soutien du gouvernement, se dit depuis plus que méfiant.
Pourquoi le gouvernement ne nous a-t-il pas sauvés de ce naufrage? Les responsables ont-ils été jugés? Je ne soutiens plus ce régime qui tue son peuple.
Les habitants de Souaïda accusent aussi le pouvoir central d'avoir pris le contrôle de 36 de leurs villages. C'est là que se trouve la maison d'Armad.
Depuis un mois et demi, je dors dans un minibus. Ma femme et mes enfants aussi. Tant qu'ils sont là-bas, on ne rentrera pas chez nous.
La ville est désormais encerclée par des checkpoints, ceux d'abord tenus par les forces gouvernementales, ceux ensuite tenus par les factions russes locales. Les deux camps s'accusent mutuellement de voler l'aide humanitaire. Le prix du pétrole et du pain a explosé. Fadi vit dans un refuge avec des centaines d'autres déplacés.
On se retrouve parfois obligé de vendre l'aide humanitaire distribuée pour obtenir de l'argent et subvenir à nos besoins primaires.
Malgré un cessez-le-feu, la situation reste tendue. Fin janvier, la communauté druze a accusé les forces gouvernementales d'avoir tué près de Souaïda 4 civils. Manon Chaplin, de retour de Souaïda, RFI.
Nous assistons à une annexion progressive de facto de la Cisjordanie. L'accusation est signée Rosemary Di Carlo, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Elle dénonce à son tour les mesures adoptées ces derniers jours par l'État hébreu pour renforcer son contrôle dans ce territoire occupé depuis 1967. En Corée du Sud, le verdict est attendu dans les prochaines heures. L'ex-président Yoon Suk-yeol, destitué après avoir tenté d'imposer la loi martiale fin 2024, va être fixé sur son sort. Il risque la peine de mort, bien que la sentence n'ait pas été appliquée dans le pays depuis des décennies.
RFI 6h07 à Paris, c'est le premier grand procès climatique contre un géant pétro-gazier en France, et ça commence aujourd'hui.
Total Energy sur le banc des accusés, un collectif d'ONG et de collectifs, donc la ville de Paris notamment, lui reproche de contribuer au changement climatique et de ne pas en faire assez pour limiter son impact. Après 6 ans de procédure, les audiences sur le fond vont enfin se tenir. Ça va durer 2 jours au tribunal judiciaire de Paris. Maître François de Cambière est l'avocat du collectif d'ONG à l'origine de cette plainte.
On attend du tribunal, après 8 ans, une décision à la hauteur de la responsabilité majeure de Total. Total n'a pas mis en œuvre sa transition. Aujourd'hui, il développe de manière très marginale des énergies renouvelables. Et donc, on attend que le tribunal juge que Total n'a pas mis en place cette vigilance climatique qui l'oblige à prendre des mesures. Et les mesures, on les connaît très bien, ce que doit faire une entreprise pour contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il y a un certain nombre de choses. Réduire ses émissions. D'autre part, c'est cesser de développer des nouveaux projets, car il y a assez de pétrole et de gaz pour approvisionner la demande jusqu'en 2050. Et ça, ce sont les scientifiques et c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit. Et s'il ne le fait pas, nous demandons à ce que le tribunal prononce une astreinte d'environ 24 millions d'euros par jour de retard. Ça peut vous sembler énorme, mais ce n'est que 0,01% du chiffre d'affaires annuel de Total Energy. Donc c'est qu'une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau qui, on l'espère, sera suffisamment dissuasive pour que Total agisse et cesse cette inaction.
Maître François de Cambière, l'avocat donc de ce collectif d'ONG et de collectivités à l'origine de cette plainte contre Total Energy, il était interrogé par Jeanne Richard. En France, toujours, les gardes à vue doivent s'achever ce jeudi dans l'enquête sur la mort du militant identitaire d'extrême droite Quentin Derenck. 11 personnes ont été interrogées, notamment 2 assistants parlementaires ainsi qu'un autre proche du député de la France Insoumise Raphaël Arnaud. Tous doivent être présentés à un juge en fin de journée en vue d'une éventuelle mise en examen. En Afrique du Sud, le ministre par intérim de la police a annoncé au Parlement le déploiement de l'armée d'ici 10 jours pour lutter contre la criminalité, en particulier la violence des gangs. Ça divise la classe politique et les spécialistes de défense, alors que depuis plusieurs années maintenant, l'armée sud-africaine est de plus en plus souvent utilisée pour pallier les lacunes de la police. À Johannesburg, Joséphine Klöckner.
Un plan de déploiement a été finalisé, a confirmé le ministre de la Police. Il cible 3 régions particulièrement touchées par la criminalité. Une mesure que plusieurs partis accueillent avec prudence. Moussi Maïmane, dirigeant du parti Bossa.
Déployer l'armée ne peut pas être une solution permanente à un problème chronique de criminalité. Les soldats ne sont pas des policiers. Donc je pense que ce déploiement doit être une mesure temporaire et que le plus important est de renforcer les capacités de la police.
Pour de nombreux observateurs, cette décision est un aveu d'échec pour la police, alors que l'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde, avec environ 60 meurtres par jour. L'armée est de plus en plus souvent sollicitée pour soutenir les forces de l'ordre, une évolution inquiétante pour Ricardo Teixeira, spécialiste des questions de sécurité.
Cela ne relève absolument pas du mandat des forces armées, et elles ne sont pas formées pour interagir avec les civils. Il s'agit simplement d'une charge financière supplémentaire pour l'armée, qu'elle ne peut pas assumer et qui est prélevée sur un budget déjà insuffisant.
Déjà en 2019, l'armée avait été envoyée pour lutter contre les gangs du Cap, sans succès durable. Une armée dont le rôle est à redéfinir, notamment après l'annonce début février de son retrait de la MONUSCO en RDC, dont elle faisait partie depuis 27 ans. Joséphine Klockner, Johannesburg, RFI.
L'intelligence artificielle ne peut pas être laissée aux caprices de quelques milliardaires, dit Antonio Guterres, qui appelle les grands acteurs du secteur à soutenir un fonds mondial de 3 milliards de dollars pour garantir un accès ouvert à tous de cette technologie. Déclaration du chef de l'ONU depuis New Delhi, en Inde, au sommet sur l'intelligence artificielle, justement. Et puis on continue notre petit tour d'Afrique pour vous présenter les finalistes du prix Découverte RFI. Voici la Comorienne Malha en lice pour l'édition 2026. José Marinho.
Ça commence par un rythme qui accroche, qui entraîne, qui ne lâche plus. Le titre s'appelle Wako, elle c'est Malha, comorienne, autodidacte, façonnée par l'école de la vie. À 32 ans, l'artiste a bâti son parcours dans le cercle familial. Orpheline très jeune, elle a trouvé dans la musique un refuge devenu nécessité. Pas encore d'album, mais déjà une dizaine de titres poignants, souvent chantés en Chikomori, la langue des Comores. Son univers alterne entre afrobeat, afropop et afro-touarabé, ce courant festif ancré dans les danses de l'archipel, comme ici sur le morceau Baba. Mais au-delà du rythme, il y a les mots, une plume sincère, engagée pour l'émancipation des femmes africaines et la justice sociale. Dans le sillage de la sud-africaine Myriam Makeba, Malha fait de chaque chanson une promesse d'espoir.
Comorienne Malha, que vous entendrez plus en longueur dans le choix musical, un petit peu avant 9h, heure de Paris.
Et oui, les finalistes du prix RFI Découverte 2026 que l'on vous fait entendre sur notre antenne ici, Malha. Et dans une dizaine de minutes, on écoutera ensemble Yewi Yeton pour retrouver toutes les infos sur ce prix. Vous connaissez l'adresse, l'onglet musique de notre site RFI.fr. Vous votez aussi à ce même endroit. Merci Gaëtan Plenem. Et bienvenue à vous qui nous écoutez. Ravi de tous vous retrouver ce matin. On est sur la ligne de départ. 3 heures d'infos tout autour du monde avec la rédaction mobilisée pour vous raconter l'actualité au plus près. Vous raconter par exemple la vie des habitants de Uvira en RDC un mois après le départ de l'AFC M23 sur place. La réouverture de la frontière avec le Burundi est demandée, implorée, notamment pour laisser revenir celles et ceux qui se sont réfugiés dans le pays voisins.
Beaucoup d'enfants sont là-bas. Il y a mes enfants et les enfants de mon oncle.
Reportage à écouter en intégralité à 7h. Ce matin, on va aussi parler du Sénégal et puis du Gabon où les réseaux sociaux sont toujours suspendus par la HAC, la Haute Autorité de la Communication du pays. Les réactions à écouter ce matin sur notre antenne et les explications du porte-parole de la présidence gabonaise, Théophane Zamenze Biyogé. Il est notre grand invité Afrique Entretien à suivre dans une demi-heure. Autre invité sur notre antenne ce matin, bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Vous recevez dans notre studio à 7h20 le numéro 2 de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, Jean-Marie Pougamin.
Oui, il est français, directeur général adjoint de l'OMC depuis 2021 et à l'heure où le commerce mondial traverse une zone de turbulence, il nous dira quelles sont les perspectives pour cette année 2026. Donald Trump a fait des droits de douane un instrument politique, il a transfiguré les échanges en annonçant des surtaxes à gogo l'année dernière, choc brutal qui va peser sur l'économie ces prochains mois. La patronne de l'OMC fustigeait il y a quelques jours la montée du protectionnisme. Est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé au bout d'un cycle ? Est-ce que c'est la fin d'une certaine mondialisation ? Et que fait l'OMC dans tout
ça ?
Je
fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche, la Noé, tu vois bien, on veut se barrer, même plaqué or. Paris est mort, il est 5 heures, Paris s'endort. Je sens, j'étouffe, je manque de souffle, je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone, vivre comme Lennon. Je parle pas de John, j'aime plus Paris. Passer le périph, de pauvres airs n'ont pas le bon goût d'être millionnaire pour ces parias. La ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de Titi, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche. Il est fini, le Paris d'Audiard. Venez aujourd'hui voir celui des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. J'irais bien voir la mer, écouter les gens se taire. J'irais bien boire une bière, faire le tour de la terre. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie, c'est la plus belle. J'en fais le pari, il n'y a qu'elle. C'est bien l'ennui, j'aime plus Paris.
Quand tu nous tiens, de nos jours, ça parle de mariage, de gens qui s'engagent, 2 ans plus tard, de bien et de partage. Y'a pas besoin de s'asseoir sur le rebord du monde pour s'apercevoir qu'on en a fait un carnage. Y'a que des fous, c'est bizarre et pas logique. Ici des flammes de l'enfer, on te fait un four à pizza. Pathétique de voir à quel point l'humain peut être débile, manipulé par des types qui jouent avec nous comme des billes. Moi, au galop, je pars d'ici, je peux plus, j'en ai marre d'entendre des mecs qui perdent un cheveu se plaindre de calvitie. Venez, on se barre, ça pue la politique, sans savoir si c'est mieux là-bas, juste quelque part où chacun sa pratique. Là où les bars d'alcooliques sont pas prolifiques, où on vit pas pour le fric, en gros, on voudrait être autre part, dans un endroit où y a pas de caisse à remplir, pour que l'État nous considère autrement que comme un code barre. Nostalgie, quand tu nous tiens, quand le futur est si fragile qu'on préfère hier que demain, quand on était que des atomes et qu'il était entre nos mains, qu'on regrette d'avoir déconné, qu'on compte sur les prochains. Aucune leçon à donner, je suis encore qu'une élève. Pardonnez mes erreurs et lisez les peines de mon cœur sur mes lèvres. Fini les lettres à l'Élysée, ces peines perdues, on a tout misé sur le recommandé. demander à la relève. Lettre 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 à la relève.
À Paris.
Lettre à la relève.
28 septembre. Lettre 2016.
À la relève.
Cher petit frère.
Lettre à la relève.
Chère petite sœur.
De nos jours, on peut dire que c'est plus comme à l'époque. Je me rappelle le temps d'époque, on avait Pokémon sans iPhone. Je me rappelle que c'était pas pareil avant, quand y'avait qu'un récidivant. Aujourd'hui papa y'en a 20, ouais. De quoi je me rappelle, de quoi je me souviens. On faisait pas les belles en affichant nos dessous. Viens, dans mon époque, mais retire tes talons hauts. T'as que 13 ans, arrête le sac longchamp, remets ton sac à dos. Range ton mascara, crois-moi ce n'est pas un cadeau. Arrête de crier sur les toits qu'avec ton pote vous faites des sacs à deux. Sur 5 ados, combien donne une image sympa d'eux? Moi je dirais qu'un, souvent les 4 autres ne sont qu'à un pas d'eux. Basculer dans ce qu'il faut pas, c'est l'école de la vie. Mais si tu veux mon avis, dur d'avancer sans faire de faux pas. Aujourd'hui t'as plein de potes, mais demain t'auras plus rien. Le jour où t'auras faim, la porte sera fermée. J'ai plus d'un, tu t'es sapé comme une pour te sentir un peu grande. Mais très vite tu dois comprendre que ton cul n'est pas un but. Le tout c'est d'avoir un but, un vrai objectif à atteindre. Ne surtout pas attendre les occasions de te plaindre. Le tout c'est de craindre l'approche de la fin d'un monde qui n'est pas tendre et anticiper son déclin. Rien ne justifie l'un, rien ne pardonnera l'autre. C'est toujours de sa faute et toi t'y seras jamais pour rien. Mais bien sûr, t'es humain, auprès des filles tu voudras la cote. La bonne choisit la bien, elle doit d'abord être ta pote. Et ai-je vraiment besoin de parler de tes parents? Si tu les as, prends-en soin, c'est pas qu'une seule fois par an. Tu sais la vie sera pas marrante, mais garde le sourire et tu verras. Plus c'est dur à faire, plus c'est facile à dire. On t'a dit marche, t'as couru, on t'a dit attends, t'as doublé. Tu verras qu'on t'a menti quand on t'a dit tu grandis, t'oublies.
Désolé,
on t'a menti quand on t'a dit tu grandis, t'oublies. Petit frère, petite sœur, j'aurais beau tout faire pour que t'aies pas mes galères et que tu fasses pas les mêmes erreurs. À quoi bon, la détermination ne s'est pas construite seule avant que t'aies les mains toutes sales. Normal de passer le savon, ouais, je parle comme une savante. À même pas 30 piges, si tu savais, j'ai pigé pourquoi c'était mieux avant. J'imagine même pas l'époque des parents, carrément. Je les envie, on m'a dit t'as changé, mais non, j'ai grandi. Petit frère, petite sœur, j'aurais beau tout faire pour que t'aies pas mes galères et que tu fasses pas les mêmes erreurs. À quoi bon, la détermination ne s'est pas construite seule avant que t'aies les mains toutes sales. Normal de passer le savon, ouais, je parle comme une savante. À même pas 30 piges, si tu savais, j'ai pigé pourquoi c'était mieux avant. J'imagine même pas l'époque des parents, carrément. Je les envie, on m'a dit t'as changé, mais non, j'ai grandi. Lettre à la relève. Lettre à la relève. Lettre à la relève. Lettre à la relève. Lettre à la relève.
À Paris.
Lettre à la relève.
28 septembre.
Petit ange, s'il te plaît, ne te change pas en un petit démon ou une petite peste. Évite les tendances et si y'a quelqu'un qui te blesse, fais pas comme lui, venge-nous. J'ai été pris de vitesse, que mes défauts soient tes qualités. Enfance qu'on ne veut pas quitter, qui des fois souvent donnera une adolescence agitée. L'innocence, le vécu, les si j'avais su, arriver nu, seule l'expérience nous avait tu.
Amateur. On va aller les voir.
Principe Actif 102.4 FM.